Avoir raison avec Durkheim, épisode 4, travailler sur le travail en compagnie de Mélanie Plouvier, maître de conférence en philosophie. Une nation ne peut se maintenir, écrit Durkheim, que si entre l'État et les particuliers s'intercale toute une série de groupes secondaires qui soient assez proches des individus pour les attirer fortement dans leur sphère d'action et les entraîner ainsi dans le torrent général de la vie sociale. Nous venons de montrer comment les groupes professionnels sont aptes à remplir ce rôle et que tout même les y destine. Bonjour Mélanie Plouvier. Vous êtes maître de conférence en philosophie à l'Université de Nice. Vous avez travaillé notamment sur la définition de la norme chez Durkheim. On va voir en quoi il s'agit d'une question extrêmement importante. Et pour présenter l'œuvre de Durkheim, il y a un livre qui est généralement trop peu étudié aujourd'hui, mais qui donne un grand nombre de clés. C'est sa thèse de la division du travail social. Elle a été publiée en 1893. C'est donc le premier ouvrage de Durkheim qui a été publié. En quoi ce livre est-il important pour comprendre l'œuvre du fondateur de la sociologie universitaire française ?
Comme vous l'avez indiqué, de la division du travail social et la thèse de doctorat d'Émile Durkheim, il faut savoir que cette thèse est une thèse initialement de philosophie. Durkheim a obtenu l'agrégation de philosophie. Il commence une thèse de philosophie qu'il entend consacrer à la question de la solidarité. La solidarité en un sens moral. Mmh. C'était la manière à l'époque de traiter ce sujet, la solidarité morale, c'est-à-dire en fait fonder un devoir de solidarité. Ce faisant, Durkheim, travaillant sur la solidarité en philosophie, éprouve une insatisfaction importante et se détourne de cette question de la solidarité devoir pour appréhender la solidarité comme un fait social. Et c'est en étudiant la solidarité comme un fait social qu'il va en fait fonder la sociologie.
Alors, ce livre, si l'on veut le présenter, on pourrait dire que c'est en quelque sorte son chemin de Damas, puisqu'en fait, c'est au cours de l'écriture de ce livre qu'il va trouver sa méthode. Vous avez parlé de fait social, c'est une notion extrêmement importante chez Durkheim. Comment la définir, sachant que Durkheim dit qu'il faut traiter les faits sociaux comme des choses? C'est peut-être sa phrase la plus connue. Qu'est-ce qu'elle signifie, Mélanie Plouvier?
Donc effectivement, Durkheim avance donc dans un ouvrage qui est un peu postérieur, 1895, Les règles de la méthode sociologique, qu'il faut traiter les faits sociaux comme les choses, précepte méthodologique majeur de la sociologie naissante. Traiter les faits sociaux comme des choses, c'est pour Durkheim ne pas les traiter comme des idées. Donc ce qui est en jeu dans cette phrase, dans cette assertion, c'est l'opposition entre choses et idées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, selon Durkheim, la manière antérieure de traiter les faits sociaux consistait à les appréhender comme des idées. Et ce qui est tout particulièrement visé dans cette assertion par Durkheim, ce sont les philosophes. C'est la manière philosophique d'appréhender le social. Le philosophe, quand il étudie un fait social, alors sans forcément l'appréhender comme fait social, regarde en dedans de lui-même le concept qu'il en a.
Autrement dit, il a des préjugés, des prénotions.
Il a exactement des prénotions. C'est dans le fameux chapitre sur les prénotions que Durkheim avance ces deux propositions corrélatives, à savoir il faut écarter systématiquement les prénotions, il faut traiter les faits sociaux comme des choses. Donc, par exemple, le philosophe qui va traiter de la solidarité sociale regarde le concept qu'il a de la solidarité sociale, il le décompose de la sorte.
Et ce qui est intéressant dans ce livre que Durkheim consacre au travail, c'est, je vais le dire schématiquement, Mélanie Plouvier, Durkheim dit que finalement on est passé d'un type de société à une autre, que cette société, elle était organisée autour du travail, c'est-à-dire qu'en fait, il va expliquer en quoi une structure globale, qui est propre à l'ensemble de la société, autrement dit, comment les gens travaillent, comment ils échangent, puisque de par la façon dont ils travaillent, il y a une conception économique de la société. En quoi cette conception économique de la société débouche sur un type de société? Comment on peut relier finalement le travail avec la manière d'être, on dirait peut-être aujourd'hui l'anthropologie de la société? Expliquez-nous Quel raisonnement suit Émile Durkheim ?
Donc, la thèse de Durkheim dans la division du travail social est la suivante. Les sociétés évoluent d'une forme de solidarité à une autre. Donc, il n'y a pas un concept de solidarité sociale, il y a des faits, des solidarités sociales différentes. Quelle est cette évolution ? Les sociétés évoluent, selon Durkheim, d'une société à solidarité mécanique à une solidarité organique.
Ce qui est un faux ami, j'insiste voilà. Là-dessus, puisque le mécanique chez Durkheim, c'est ce qui est antérieur à, en réalité, la révolution industrielle, et l'organique, voilà. C'est la forme présente. Expliquez-nous pourquoi il choisit ces deux termes.
La solidarité mécanique désigne pour lui un mode de cohésion des sociétés fondé sur la similitude. Les individus sentent, pensent, agissent avec ensemble, de manière harmonieuse, parce qu'ils sentent, pensent, agissent similairement. Les contenus de conscience sont les mêmes. Face à, par exemple, un saccage d'un totem, les membres de la communauté totémique vont éprouver le même sentiment d'horreur, ils vont agir de la même manière. C'est le premier mode de cohésion sociale que Durkheim définit comme solidarité mécanique, parce que, dit-il, les éléments sont assemblés, les individus sont assemblés comme au sein de la matière, de manière juxtaposée. Ce qu'affirme Durkheim, c'est que ce type de solidarité correspond aux sociétés dites anciennes, aux sociétés anciennes ou aux sociétés archaïques, et que avec les progrès de la division du travail social, on quitte ce mode de cohésion pour un mode de cohésion fondé sur la différenciation. C'est-à-dire que dans nos sociétés modernes, nous agissons, nous pensons, nous faisons les choses de manière harmonieuse, non pas parce que nous sommes similaires, mais parce que nous sommes différents, parce que nous sommes des individus différenciés. Vous allez me dire, comment peut s'opérer une telle harmonisation de la différence ? Pour Durkheim, cette harmonisation de la différence est possible parce que ce qui se trouve, les fonctions différenciées, les fonctions spécialisées, sont complémentaires les unes des autres. Et c'est cette complémentarité fonctionnelle qui constitue, selon lui, le ciment des sociétés à solidarité organique.
Alors, on voit en fait l'évolution, et ce sur quoi Durkheim insiste, c'est finalement son inquiétude. Et on pourrait même dire, alors c'est mon point de vue, ça n'est peut-être pas le vôtre, Mélanie Plouvier, mais on peut dire qu'il y a chez Durkheim une inquiétude majeure qui est finalement comment la société va-t-elle se moderniser, comment va-t-elle survivre en ayant abandonné la forme de base qui est la forme religieuse finalement. Comment on va construire une morale, comment on va construire une cohésion alors même que l'économie a un ferment dissolvant de cette société, et c'est la grande intuition, et c'est cela aussi qui paraît particulièrement pertinent aujourd'hui, puisque finalement, cette dissolution du lien social que l'on observe aujourd'hui, eh bien Durkheim l'avait redouté, il l'avait pressenti, expliquez-nous.
Il l'avait même théorisé, son concept d'anomie vise précisément cela. Effectivement, la grande question qu'affronte Durkheim est celle de savoir comment nous pouvons faire société tout en étant des individus différenciés, spécialisés, libres. Donc, quel mode de cohésion, comment faire société, si vous voulez, dans les conditions de la différenciation ? Certains interprètes de Durkheim affirment que, finalement, il serait revenu à une forme de solidarité mécanique, c'est-à-dire que ce qui permettrait de faire tenir ensemble les sociétés modernes, ce serait finalement, ultimement, des éléments mécaniques, c'est-à-dire de similitudes. Au fondement même de ce qui permet de faire de tenir ensemble. Je défends pour ma part une thèse opposée. Je ne pense pas que Durkheim soit un conservateur. Je ne pense pas que, comme par exemple le pense Nisbet, la grande thèse de Nisbet, la tradition.
Alors Robert Nisbet, c'est un classique en sociologie et sa thèse, qui est là aussi assez inattendue, consiste à dire finalement il y a un lien entre des penseurs conservateurs, même très conservateurs, comme Joseph de Maistre, et des gens comme Émile Durkheim.
C'est tout le titre de son ouvrage résume sa thèse. Ce qu'affirme Nisbet à travers son ouvrage, c'est que la sociologie, dans son essence, est conservatrice. D'où ce titre, la tradition sociologique. C'est une thèse philosophique. Et ce faisant, Nisbet va effectivement accoler Durkheim à côté d'auteurs réactionnaires, comme les auteurs de la tradition rétrograde, Bonald, de Maistre, etc. La thèse de Nisbet vise à dire que Durkheim, au fur et à mesure de la rédaction de la division du travail social, se serait rendu compte que la solidarité organique ne pouvait pas tenir toute seule et qu'il fallait réinjecter du mécanique pour faire cohésion dans la modernité. Et c'est pour ça que Nisbet s'intéresse au concept d'autorité, au concept d'anomie chez Durkheim. Il me semble que c'est une lecture très rapide. Je pense au contraire que Durkheim s'efforce de penser ce qui peut faire société sans constituer un retour au mécanique. Et dans ce cadre, le travail, vous avez entièrement raison, joue une place absolument centrale. C'est par le travail, c'est en particulier par l'organisation sociale du travail, que les sociétés modernes peuvent aujourd'hui se structurer.
C'est une intuition géniale, et c'est une intuition géniale qui se distingue de Marx, puisque, à la différence de Marx, qui parle de structure métaconsciente, puisque chez Marx, il y a l'idée finalement que le capital, par le biais des infrastructures, des superstructures, va influencer les hommes. Chez Durkheim, c'est pas cela. Chez Durkheim, c'est le travail concret qui, lui, provoque des effets concrets sur les hommes concrets. C'est en quelque sorte une manière beaucoup plus abouti, c'est pas un jugement de valeur, mais on voit très bien par quel biais ça passe chez Durkheim, l'identité sociale par le biais du travail, Mélanie.
Alors c'est effectivement par le biais de, on pourrait dire, de l'activité elle-même, et Durkheim est un de ceux qui se rend compte que nos sociétés modernes accordent une place centrale au travail. Il y a des passages de la division du travail social où il y a une forme d'émerveillement de Durkheim dans la description même de la place que prend le travail dans nos sociétés modernes comparées à d'autres sociétés. Et là où Durkheim me semble avoir une intuition encore plus géniale, si on peut se permettre ce terme, c'est dans le fait de ne... C'est pas simplement l'activité concrète qui l'intéresse, c'est comment on organise socialement l'activité concrète. Comment l'activité va être réglementée. Et il me semble que de ce point de vue, il y a deux grandes formes d'organisation que préconise Durkheim qui peuvent être des lumières éclairantes pour aujourd'hui. Alors d'une part, il y a la question de la réglementation juridique du contrat de travail, ce qui adviendra plus tard sous la forme d'un droit du travail qui n'est pas encore présent. Et il y a la question de l'organisation du groupement professionnel sous la forme donc d'une réforme du groupement professionnel que Durkheim nomme réforme corporative.
Alors c'est cette deuxième réforme qui a souvent été retenue pour considérer que Durkheim finalement était un conservateur déguisé en socialiste.
Exactement. Donc il faut voir, je me permets de dresser un panorama un peu rapide de l'état du groupement professionnel à l'époque de Durkheim. Donc la Révolution française avait supprimé les corporations d'ancien régime, c'est le fameux décret d'Allard et la loi Le Chapelier de 1791 qui dissout toutes les formes d'intermédiaires professionnels entre l'individu et l'État. Et au moment où Durkheim écrit la division du travail social, en 1893, l'organisation syndicale est simplement à ses commencements. Les syndicats et associations professionnelles viennent d'être à nouveau autorisés par la loi Waldeck-Rousseau de 1884. Donc, on est vraiment à un moment où les choses sont en train de se mettre en place. Et ce que propose Durkheim, c'est face à cet état de vide d'organisation du travail, de vide d'organisation de la vie économique, et face à la nécessité d'organiser, parce qu'on est à un moment où il n'y a aucune forme de réglementation du contrat de travail, etc. À ce moment-là, Durkheim propose de manière assez surprenante de restaurer le groupement professionnel, de restaurer plus exactement la corporation. Mmh. Alors, pourquoi ce choix de la corporation? Choix qui peut paraître surprenant, voire même peut-être malheureux. Pourquoi un choix malheureux? Parce que Durkheim le concède lui-même, la corporation, elle a contre elle son passé, à savoir le passé d'Ancien Régime, où la corporation, condensait deux défauts majeurs, à savoir les privilèges des maîtres, oui, et ce qu'on appelait déjà l'égoïsme corporatif.
D'accord.
Et on peut ajouter une autre raison de ce choix malheureux, mais que Durkheim ne pouvait pas anticiper, c'est le futur de la corporation, ce que va devenir la corporation, uh-huh. en particulier durant la Seconde Guerre mondiale, l'État corporatiste fasciste. Donc vraiment, ce terme coalise contre lui énormément de griefs. Pour autant, Durkheim maintient ce choix de la corporation. On peut se demander donc pourquoi un tel choix, pourquoi un tel terme. Il me semble qu'il y a derrière ce choix une thèse forte qui est de dire que la défense des droits des travailleurs passe nécessairement par la défense de la profession. Mmh. C'est-à-dire que les droits ne pourront être constitués, les droits des travailleurs ne pourront être constitués que via chacune des professions. Et il y a là, ce me semble, un enseignement possible pour nous aujourd'hui, dans ces temps qui dénoncent un peu vite le corporatisme.
Bien sûr.
Ce qu'affirme Durkheim, c'est que la défense des droits des travailleurs ne se fait pas en ôtant certains droits à certains, entre guillemets, privilégiés, au privilège de certains D'accord. travailleurs. C'est nécessairement toutes les professions qui doivent constituer un droit. Alors, reste après la question plus de fond, quelle est la forme de la corporation et pourquoi Durkheim sûr. Maintient-il cette forme corporative ? Durkheim, le point important, et c'est ce qui commande la critique durkheimienne du syndicat, de la forme syndicale, pour Durkheim, la corporation a l'avantage de maintenir en son sein les employeurs et les employés, les patrons et les salariés. À la différence du syndicat ou de l'organisation syndicale qui oppose organisation de travailleurs et organisation de patronale.
Donc on voit qu'en fait, ce qui est derrière tout cela, c'est le souci que Durkheim a de la cohésion de la société, puisque c'est quelqu'un qui considère que la lutte des classes, que tout ce qui relève du conflit est quelque chose d'haïssable, et c'est même son inquiétude. Et si c'est son inquiétude, eh bien il se propose dans l'ensemble de son œuvre, il le dit explicitement, mais finalement il le pense à chaque moment, il essaye de construire une morale qui soit une morale laïque, puisque... Encore une fois, ce qui est problématique pour Durkheim, c'est que les hommes vont devoir vivre sans le secours de la religion organisatrice. Et pour Durkheim, la morale est, selon moi, synonyme de cohésion sociale. C'est-à-dire que finalement, construire une morale, c'est construire une homogénéité sociale. Comment s'y prend-il à cet égard, Mélanie Plouvier ?
Alors. Effectivement, le ferment social passe par la morale et le fait de construire une morale adaptée à la modernité. Pour autant, cette morale ne passe pas, il me semble, par une homogénéisation et surtout, elle passe par des institutions. Et concernant le problème de l'organisation de la vie économique, Durkheim ne propose pas une moralisation de la vie économique. Il ne propose pas, il ne cherche pas à susciter certains comportements vertueux de travailleurs ou d'employeurs qui transformeraient progressivement la vie économique. Non, il propose une véritable socialisation de la vie économique cette socialisation aura des effets moraux. Et cette socialisation de la vie économique passe en particulier par sa proposition de réforme corporative. Et je reviens, si vous me permettez, sur cette organisation et ce choix du terme même de corporation. Ce qui importe pour Durkheim, c'est la présence simultanée au sein de la corporation d'employeurs et d'employés. Alors vous pouvez me dire effectivement que cela permet d'éviter l'affrontement, la lutte des classes. Mais pour Durkheim, c'est pour proposer une démocratisation de la vie économique. Comment doit être structurée selon lui la corporation ? Elle doit comprendre un petit parlement, donc à l'échelle de la profession, sur un territoire donné. Il doit y avoir ce qu'il appelle un petit parlement, un conseil d'administration de la profession. Dans ce parlement, petit parlement de la profession, doivent être présents des représentants élus des employeurs et des représentants élus des employés. Mmh. Et ce conseil d'administration va décider, après délibération, concertation, va décider des grandes normes qui vont régir la profession. Ce qui veut dire très concrètement que dans la proposition durkheimienne, les employés et les employeurs décident démocratiquement de la gestion de la profession. Et il faut voir jusqu'où va Durkheim dans le détail de ce que la corporation va réglementer. Il nous dit que la corporation doit réglementer et il appelle cela le droit professionnel, doit réglementer la relation de travail. Mmh. Donc, le petit parlement de la corporation va décider de la quantité de travail, les conditions de travail, le montant du salaire, etc. Bref, ce qui va devenir, bien plus tard, la convention collective. Mais, et c'est là où il me semble que Durkheim a une proposition totalement novatrice, Durkheim nous dit également que ce petit parlement doit décider de la production elle-même. C'est-à-dire quel produit, quelle quantité, vendu à quel prix. Bref, ce n'est rien moins qu'une démocratisation complète de la vie économique que Durkheim propose en demandant à ce que les employés, et pas simplement les employeurs, aient un mot à dire sur ce qui est produit.
Mélanie Plouvier, il y a chez Durkheim le souci donc de faire société, d'accompagner la société dans sa modernisation et... L'autre aspect qui est, à mon sens, extrêmement important dans la pensée de Durkheim, c'est sa réflexion sur les normes et à la fois donc sur la justice sociale, on vient de l'entendre dans votre raisonnement, mais aussi sur la justice tout court. Et là aussi, il propose une théorie qui est tout à fait nouvelle. Et c'est une théorie qui demeure encore valide aujourd'hui, même si bien souvent, on ne sait pas qu'on la doit à Durkheim. Que dit Durkheim sur ce qui relève du crime et de la peine ?
Alors, dans la division du travail social, effectivement, Durkheim corrèle les deux formes de solidarité sociale à des formes de droit. C'est-à-dire que à la solidarité mécanique correspond une prépondérance du droit répressif ou pénal. À la solidarité organique correspond une prépondérance de ce qu'il appelle le droit restitutif qui correspond au droit civil essentiellement.
Et là, on voit bien, pardonnez-moi, et on voit bien le lien que fait toujours Durkheim, comme tous les grands sociologues, parce que c'est ça aussi la méthode durkheimienne, l'idée qu'on va relier une sorte de stade méta-collectif, donc le travail, à d'autres éléments. Donc comment on peut relier le travail et le droit, alors même que ce sont deux phénomènes qui relèvent, a priori, de sphères
oui,
hétérogènes.
C'est tout à fait intéressant la manière dont Durkheim va nous donne des enseignements sur des réalités qui ne sont pas encore advenues, telles que par exemple le droit du travail. Parce que si on regarde sa description des différentes formes de droit. Donc ce que Durkheim avance, c'est qu'on passe d'une prépondérance du droit répressif à une prépondérance du droit restitutif. Et ce point-là est très connu. Ce qui est moins connu, ce sont les formes que revêtent ces deux droits. Ce qu'affirme Durkheim, c'est que le droit pénal consiste essentiellement en une échelle des peines. Mmh. C'est-à-dire que le droit pénal fonctionne n'a pas besoin d'énoncer la règle qu'il y a à respecter. Il énonce la peine attachée à un acte. Et ce qu'affirme Durkheim, c'est que si le droit pénal procède ainsi, c'est qu'il n'a pas besoin d'énoncer la règle, parce que la règle est connue de tous. On a un lien affectif avec ces interdits pénaux. Par contre, ce qu'affirme Durkheim, c'est que le droit restitutif ne consiste pas en une telle échelle des peines, mais en un code des obligations. Ce code des obligations nous dit « voici la règle, voici le devoir », avant même d'énoncer la peine, la sanction attachée au non-respect de cette règle. Et ce qu'affirme Durkheim, c'est que si le droit restitutif, donc le droit civil, le droit contractuel, le droit des obligations, ont besoin énoncent la règle, c'est qu'ils ont besoin de l'énoncer parce que cette règle n'est pas connue de tous. Pourquoi ? Parce que c'est un droit spécialisé. En d'autres termes, à nos hommes politiques qui ne cessent de s'appesantir sur l'épaisseur du code du travail, Durkheim répliquerait « mais il est inéluctable que le code du travail soit volumineux, qu'il soit épais. Pourquoi ? Précisément parce qu'il encadre des activités spécialisées, elles-mêmes complexes, et qu'il rend compte du détail de ces activités. »
Et dans la manière dont Durkheim pense la sanction pense la justice dans son œuvre, Mélanie Plouvier, il y a une phrase qui est tout à fait étonnante. Durkheim dit en substance que le crime est normal, mais il rajoute « ce qui est normal, c'est le couple que forment le crime et la peine ». Et il dit en substance toujours qu'il serait complètement anormal de penser une société sans crime, que ce serait non seulement une utopie, mais même une dystopie, quelque chose de profondément haïssable. Et il explique finalement en quoi, eh bien, il y a nécessairement des pathologies sociales et en quoi ces pathologies sociales, eh bien, elles sont réglées par la justice à mesure et à proportion de ce qu'elles choquent la conscience commune.
Alors effectivement, c'est une autre célèbre assertion de Durkheim dans les règles de la méthode sociologique. C'est une assertion qui a fait totalement scandale à l'époque. Le crime est un phénomène social normal. Alors entendons-nous bien, Durkheim ne dit pas que le crime est un phénomène individuel normal. Il ne se prononce pas sur cette question qui ressort au mieux de la psychologie ou de la psychopathologie. Ce qu'il affirme, c'est que le crime est un phénomène social normal. En d'autres termes, que toute société présente nécessairement un taux de criminalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des taux de criminalité pathologiques. À un moment donné, on peut avoir un taux de criminalité plus élevé. Mais ce qu'affirme Durkheim, c'est que toute société comprend un taux de criminalité. Alors, ça nous oblige à revenir sur la question que vous m'adressiez sa conception du crime, de la sanction, et tout particulièrement de la sanction pénale. Pourquoi, selon Durkheim, toute société présente-t-elle un certain taux de criminalité? Parce que, pour Durkheim, le crime, c'est un acte qui offense des états forts et définis de la conscience collective. En d'autres termes, toute société attache de la valeur à certaines choses. Les sociétés anciennes, ça va être les choses religieuses. Les sociétés modernes, ça va être plus particulièrement l'homme. Mais toute société produit sans cesse de la valorisation, valorise certains éléments. Et le crime, c'est ce qui bafoue cette valorisation. Et pour Durkheim, la peine, la sanction pénale, c'est une réaction sociale à ce qui a offensé ces états forts et définis de la conscience collective.
Mélanie Plouvier, en conclusion, que faut-il retenir, que doit-on retenir lorsqu'on est néophyte en matière de pensée durkheimienne et que l'on veut donc se confronter à cette pensée?
Il me semble que ce qu'on trouve dans l'œuvre de Durkheim, et tout particulièrement dans la division du travail social, et encore plus dans la préface qu'il rédige en 1902, c'est au tout début du livre de cet ouvrage, c'est une proposition de réorganisation de la vie économique qui est très impressionnante parce qu'elle se base sur le fonctionnement de la vie économique. Elle ne fait pas table rase et pourtant elle la socialise en profondeur. D'une part, via la réforme corporative dont je vous ai quelque peu parlé et qui propose d'instituer non seulement un droit professionnel qui va réglementer les relations de travail et même la définition même du produit, mais même plus largement, Durkheim propose, et c'est une anticipation majeure de ce qui va devenir la sécurité sociale, l'assurance, les différentes formes d'assurance sociale, il propose un financement des protections du travailleur via la suppression de l'héritage et la transmission de l'héritage au groupement professionnel, ce qui est un bouleversement complet hein, de la structure même de la transmission héréditaire et qui vient penser une forme de propriété collective tout en maintenant, au long de la vie des individus, la propriété privée.
Merci beaucoup Mélanie Plouvier. C'était Avoir raison avec Émile Durkheim, une émission de Guillaume Erner, préparée par Marguerite Richelme et Elsa Benayem, prise de son Alain Joubert, réalisation Guillaume Baldi.